Je m'appelle Francine Christophe, j'ai 88 ans puisque je suis née en 1933. 1933, très mauvaise année puisque c'est l'année où Hitler prend le pouvoir. J'ai toujours dit en riant que si j'avais su, je serais restée dans le ventre de ma mère, mais c'était pas possible.
Eh bien non, ce n'était pas possible. Alors elle ne manque pas d'humour, Francine Christophe, avec qui nous allons passer ce numéro d'une semaine dans leur vie. Bonjour Mathilde Noémie.
Bonjour Bruno.
Pourtant, ce que nous allons entendre, Mathilde, vous qui avez rencontré Francine Christophe, c'est un moment d'histoire dont elle est un témoin précieux, un de ces moments d'histoire qui, a priori, ne prête pas à rire.
Il y a un vrai contraste à la voir s'installer, s'enquérir de sa bonne distance avec le micro, rire même qu'on lui dise que c'est parfait. Mais à la première question, le temps se fige, le regard fixe un point derrière nous et le débit se ralentit.
La vie de Francine Christophe a basculé en 1940. Son père est alors fait prisonnier de guerre et elle vous raconte, Mathilde, la vie devenue difficile avec sa mère à Paris, l'étoile jaune qu'elle doit porter et leur départ précipité pour rejoindre son oncle en zone libre.
Seulement, leur train s'arrête sur la ligne de démarcation. Francine, 8 ans, est arrêtée avec sa mère. Elles sont déplacées pendant 2 ans de prison en camp d'internement, Angoulême, Poitiers, Pithiviers, Beaune-la-Rolande et Drancy, 2 fois.
Drancy, je crois que je vais y voir une des choses les plus épouvantables de ma vie. J'ai vu arriver des milliers d'enfants dans un état épouvantable. Ils étaient blessés, ils étaient sales. Ils avaient les yeux morts, ils ne savaient plus pleurer. Je suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, après la guerre, que tous ces enfants-là, c'est ce qu'on a appelé la rafle du Veldiv. Effectivement, ils avaient été arrêtés, mis au Veldiv, et de là transportés dans le Loiret, ensuite à Drancy, et puis ils partaient pour la déportation. Ça m'a vraiment marqué pour toute ma vie. J'avais affreusement peur qu'il m'arrive la même chose, c'est-à-dire qu'on me sépare de ma mère. Et je me jetais dans les bras de maman en disant « Mais pas moi, pas moi. Non, pas moi. » J'ai vu partir tous ces enfants et je suis resté. Alors, au bout de quelques temps, on m'a donc emmené dans le Loiret. On est d'abord allé à Pithiviers. Après Pithiviers, on m'a emmené à Beaune-la-Rolande. Et je dois dire que c'est difficile à faire comprendre. Mais par rapport à tout ce que j'avais vécu, ce camp-là, c'était presque des vacances. C'est-à-dire qu'on était gardé par des douaniers. Ils n'étaient pas méchants. On comprenait même qu'ils n'aimaient pas ce qu'on leur faisait faire. Le camp, petit à petit, s'est rempli, là aussi. Au bout de presque un an, on a quitté Beaune-la-Rolande et on est retourné à Drancy. Drancy avait bien changé, en ce sens que il n'était plus gardé par des gendarmes, mais par des SS. Là, c'était autre chose. Le chef du camp était dur, mauvais, méchant, avec un regard fixe, une voix monocorde quand il nous parlait. On a supprimé par terre le mâche-fer, on l'a bétonné. Ça fait un camp tout propre, impeccable. Il y avait tout de même quelque chose qui restait, nous on le savait. C'était les cachots. On ne le disait pas, mais nous le savions. Le chef de camp aimait nous voir. De temps en temps, il nous faisait entrer dans son bureau, il nous questionnait. Et un jour, maman et moi, nous sommes passés dans son bureau. Je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait, mais j'ai su après que nous devions partir. Nous devions partir où ? Je ne le savais pas. Pour combien de temps ? Je ne le savais pas. On ne savait rien. On sait seulement qu'il fallait partir. Et c'est ainsi que nous sommes partis vers l'Allemagne, sans savoir.
Francine Christophe parle de périple. Elle n'aime pas le mot voyage. Et elle raconte tout cela dans un livre, Mathilde. Il s'appelle « L'enfant des camps ». Le camp en Allemagne, c'est celui de Bergen-Belsen.
Et en la lisant, je me demandais ce qu'elle pouvait bien saisir de ce qu'il se passait quand on n'a que 10 ans et qu'on ne comprend pas la langue. Première impression de petite fille à Bergen-Belsen.
Ce qui me frappe, ce sont des petits enfants hollandais qui viennent nous demander si on a à manger. Et ça, je n'en revenais pas. Et le soir, quand on nous a donné de la soupe, on l'a trouvée tellement mauvaise qu'on n'a pas mangé. Et eux, ces petits Hollandais, se sont jetés dessus. Nous, on a mangé les quelques vivres qu'on avait apportés dans notre sac. Après, j'ai compris. Et moi aussi, j'ai mangé la soupe. Mais vous voyez à quel point on était ignorant de tout ce qui allait venir. C'est sans doute ça la force de tous ces Allemands, c'était d'avoir réussi à ce qu'on ne sache rien.
Vous souffrez de la faim beaucoup, du froid et puis du typhus à un moment donné.
Le froid, c'était quelque chose d'épouvantable. L'hiver, ça descendait à moins 20, moins 25. Pendant l'appel, on avait de la neige jusqu'aux genoux. On ne sait pas ce que c'est que d'avoir faim, mais ça fait mal. Ça fait mal, la vraie faim. Et puis on a eu des épidémies. On ne mourrait pas que du typhus, on mourrait aussi de la dysenterie. On mourrait tout.
Et puis il y a cette odeur qui reste imprégnée dans votre peau.
L'odeur d'un camp. C'est très spécial à Bergen, parce que à Bergen, il n'y avait pas de four crématoire. Enfin, il y en avait un, c'était pas assez. Ce qui fait qu'on ne savait pas quoi faire des morts. Ben, les morts restaient là par terre. Et nous vivions au milieu des cadavres. Ils pourrissaient tellement que, je ne sais pas, mais il paraît que ça sentait à des kilomètres. Moi, j'étais dedans. J'étais dedans et j'ai tenu. Et maman aussi.
Pourtant, vous dites, j'étais presque privilégiée par rapport à d'autres.
Oui, bien sûr. Mais j'ai toujours été privilégiée puisque, grâce à mon père, j'étais fille de prisonnier, donc j'étais protégée. Et c'est pour ça que j'ai été envoyée à Bergen-Belsen, qui n'était pas un camp d'extermination, mais de camp de concentration. Dans un camp d'extermination, on est gazé très vite. Dans un camp de concentration, on va probablement mourir aussi, mais avant, on donnera ses forces à l'Allemagne nazie. Ceux qui travaillent dehors, l'hiver, ceux-là ne vont pas tarder à mourir. Ceux qui ont la chance de travailler avec un toit au-dessus de leur tête tiennent le coup. Et c'était notre cas, comme nous étions privilégiés, là aussi. Les femmes du groupe partaient tous les jours, comme tout le monde, mais avec un toit au-dessus de la tête.
Qu'est-ce que fait une petite fille de 10 ans au quotidien, dans un camp de concentration?
Rien. Rien n'est prévu pour des enfants, jamais rien. Tous les enfants sont tués, immédiatement, dès qu'ils arrivent. Et nous, on ne nous a pas tués. Mon privilège, c'est ça. C'est que j'ai gardé la vie. C'est beau, la vie. Je n'arrête pas de le répéter.
Il faut arriver à voir les belles choses au milieu de l'horreur. La vie, dit Francine Christophe, mais aussi la solidarité entre les femmes.
Passer un chiffon humide sur le front d'une mourante du typhus, partager avec celles qui n'ont plus rien, il y a eu aussi un miracle dans ce camp de Bergen-Belsen.
Et cette histoire qu'elle vous raconte lie à jamais deux femmes.
Ça fait partie des grands mystères de ma vie. Pourquoi est-ce que j'ai tenu? Comment est-ce que j'ai tenu? Je ne sais pas.
Pour tenir, votre mère avait gardé avec elle quelques maigres affaires. Et notamment un petit carré de chocolat.
Je vous vois venir, là. Nous avions avec nous une camarade qui était arrivée enceinte. Son ventre a grossi. Pas beaucoup, mais elle était tellement maigre. Enfin, ça a été le moment d'accoucher. Et elle est partie au Revire. Le Revire, c'est l'infirmerie. Et maman, qui avait été nommée chef de baraque par les camarades, Maman m'a dit, tu sais, je vais aller voir comment ça se passe. Peut-être que je pourrais l'aider. Mais avant de partir, elle m'a dit, Francine, j'ai quelque chose à te demander. Nous avions eu le droit, nous aussi, d'emporter deux, trois choses de Drancy. Certaines, trois petits beurres, d'autres, quelques bouts de sucre. Il y en a même une qui avait emporté une poignée de riz. Et maman, elle, avait emporté de petites doigts de chocolat. Alors maman me dit, il faut que je t'explique. Elle va fournir un très, très gros effort. Et j'ai peur pour elle, car elle est faible. Elle est maigre. Tu sais, ce chocolat, je l'ai gardé pour toi. J'ai bien envie de lui donner, mais je ne le ferai pas sans ton accord. Bon, je dis bien sûr, maman. Pourquoi tu ne lui donnerais pas? Donc maman est partie au revire avec le chocolat. Ça a dû faire comme le coup de fouet que donne un morceau de sucre. Possible. L'enfant n'était pas gros. Ouh là là, un tout petit truc. Toujours est-il que et la mère et l'enfant s'en sont tirés.
C'est une histoire que vous avez racontée devant des élèves, dans des colloques. Et puis un jour, dans les années 2000, il se passe quelque chose pendant un de ces colloques à Marseille.
On a commencé à parler et il y a une dame qui a dit « Pardonnez-moi, mais avant de commencer, j'ai quelque chose à vous donner. »
Et la dame en question, qui a un carré de chocolat dans la main, s'appelle Yvonne Salamon. Elle est psychiatre à Marseille et c'est elle qui raconte à Mathilde la suite de l'histoire.
Je suis invitée, j'arrive et je me suis approchée du micro et j'ai dit « Mais avant de parler, je vais dire quelque chose à Francine Christophe. » Je lui tends le carré de chocolat et je lui dis « Je suis le bébé. » Et voilà, on est tombés dans les bras l'une de l'autre. C'est la première fois où je la voyais.
Qu'est-ce que ça représente, ce moment, pour vous ?
Formidable, parce que elle a vu ma naissance. Elle avait 11 ans. Oui, c'est très, très important pour moi. Ma mère ne m'a pas nourri véritablement. Il n'y avait rien à manger. Elle m'a nourri avec la soupe des camps. Et elle avait une petite boîte de lait en poudre qu'elle avait échangée contre je ne sais combien de rations de pain noir. Et ça, ça m'a sauvé. Et elle m'a dit que quand je suis né, je ne devais même pas peser 1,5 kg. Minuscule. Elle m'a dit, je ne voyais même pas que tu avais un nez tellement il était petit.
Votre mère était sage-femme. Hein,
elle était sage-femme. Et ça a été, on s'est sauvé la vie mutuellement parce que elle a voulu tellement me faire naître et je crois que c'est ce qui l'a tenu dans le camp. Hein.
Quand les alliés se rapprochent, les SS forcent les rescapés de Bergen-Belsen à monter dans un train, 2 semaines enfermés, sans manger, pour servir de bouclier humain. Leur train était sur un pont qui était piégé. Elles sont libérées par les Russes.
Et c'est une histoire qu'Yvonne Salamon, qui est une psychiatre connue à Marseille, découvre bien plus tard, elle qui est donc née à Bergen-Belsen.
Elle rentre avec sa mère à Marseille. Son père, prisonnier de guerre depuis 5 ans, vient aussi d'être libéré. Sauf que ça ne peut pas être son père, par définition. Sa mère a une histoire avec le résistant communiste Georges Salan avant son arrestation. Longtemps, elle a caché tout ça à sa fille, avec des conséquences très concrètes.
Et c'est là qu'Yvonne Salamon vous a sorti son portefeuille.
Passeport, il est là.
Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ?
Ben, il y a écrit Salamon, Yvonne, 1m62... Né le 20-10-44 à Bergen-Belsen. Voilà.
Vous avez d'autres papiers d'identité avec une autre date de naissance. Hein.
Oui. Voilà, mon permis de conduire.
Vieux permis.
Ah oui. Voilà, Salamon Yvonne, né le 15 août 45 à Marseille.
Votre père a été fait prisonnier de guerre.
Oui.
Puisqu'il était engagé dans l'armée française en 1940, très tôt.
Oui.
Votre mère, très vite, comprend que les Allemands vont arriver sur Marseille. Elle met vos frères et sœurs à l'abri
Et elle s'engage elle-même dans la résistance.
Tout à fait. Elle transportait des documents d'une ville à l'autre. Et même, elle accouchait des femmes juives, elle était sage-femme, et elle leur fournissait des faux papiers pour la mère et le bébé. D'abord arrêtée par la milice, elle n'a pas parlé, alors qu'elle a été torturée par la milice française, par la Gestapo allemande, après Drancy et après Bergen-Belsen. Quand elle est arrivée à Bergen-Belsen, elle était enceinte de 4 mois déjà. Et elle a mené à bien sa grossesse. Elle s'est accouchée toute seule. Et elle m'a caché 6 mois sur sa poitrine. Je n'ai jamais pleuré, et c'est Francine qui le raconte, ni Jean jamais poussé le moindre bruit. C'est incroyable, ça. Mais quel est le bébé qui ne pleure pas ? Il n'y en a aucun. Donc j'ai dû comprendre qu'il ne fallait pas pleurer.
Pourtant, un jour, vous vous êtes mise à pleurer.
Oui. Ben, le jour où on a été libérée et qu'elle m'a détachée de mes langes, qu'elle m'a séparée d'elle. Et là, ça a dû être ma naissance. J'avais 6 mois.
Finalement, votre histoire, vous l'avez apprise bien plus tard.
C'est sûr, parce qu'elle a voulu me cacher les circonstances de ma naissance. Mais elle a quand même, heureusement, écrit beaucoup de choses sur sa vie. Mon père n'est pas mon géniteur, mais c'est mon père que j'ai beaucoup aimé, et lui aussi. Ils m'ont déclaré comme étant né le 15 août 45 à Marseille, de lui. Ça a été ma date de naissance, longtemps. Jusqu'au jour, c'est moi-même qui ai compris que mon père n'était pas mon géniteur.
C'est plus tard encore que vous changez votre date de naissance.
Oui, ça s'est passé en 1986. C'est-à-dire ma mère avait des témoins de ma naissance dans le camp. C'est un juge à Marseille qui a changé ma date de naissance. Du 15 août 45 au 20 octobre 44, j'ai vieilli de 10 mois du coup. Mais bon, c'était très important pour moi, oui.
Vous êtes sûrement la seule à être née à Bergen-Belsen.
Et peut-être pas la seule, mais qui ait survécu, oui. Et je dis aussi, avec un sourire, que je vais être la dernière survivante de la Shoah, probablement.
Vous vous rendez compte de ma responsabilité, glisse alors Yvonne Salamon en souriant.
Et elle a mis du temps à raconter son histoire. Le livre vient de sortir. Je suis née à Bergen-Belsen. Francine Christophe, elle, se rend régulièrement dans les écoles.
Et même une fois dans un EHPAD, dit-elle en rigolant. Elle a commencé dans les années 90 en réponse aux négationnistes. Témoigner pour ne pas oublier, mais faut-il pardonner, Yvonne Salamon ?
Le froid, la faim, terrible. Comment on peut traiter des êtres humains comme ça ? C'est pour ça que je ne pardonnerai jamais, moi. Jamais. Je mettrai jamais un pied en Allemagne, même pour aller à Bergen-Belsen. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le philosophe Paul Ricoeur qui dit « Ce qui est inoubliable est impardonnable. » Et pour moi, c'est inoubliable, donc impardonnable.
Vous avez l'impression qu'on est en train d'oublier ?
Mais ça s'éloigne tellement. Et les générations actuelles, c'est de l'histoire ancienne pour eux. Si je reste la dernière survivante, vous rendez compte de ce que j'ai à faire encore. Il le faut. Je connais la barbarie humaine. Voilà. Je sais que l'être humain est capable de tout. L'antisémitisme, le racisme, ça existe toujours. Tout ça, c'est la psychiatre qui parle, vient de la paranoïa, c'est-à-dire la peur de l'autre, le mépris de l'autre, et trouver des boucs émissaires. Or, la paranoïa, c'est contagieux, ça se répand.
Il ne faut pas qu'on oublie. On ne peut pas laisser oublier ça, c'est impossible.
Yvonne Salamon dit par exemple qu'elle ne peut pas aller en Allemagne, elle ne veut pas y aller et qu'elle ne pardonnera jamais.
Non, moi c'est différent. Au contraire, j'aime y aller parce que les Allemands, maintenant, sont des gens absolument charmants et qui souffrent terriblement de ce que leurs ancêtres ont fait. Moi non plus, je ne pardonne pas. Je pense qu'il n'y a pas un seul déporté qui est capable de pardonner. Comment voulez-vous pardonner un seul bébé brûlé vif? Car ils en ont brûlé vif. C'est pas possible. Non, pas de pardon.
Vous êtes retourné à Bergen-Belsen?
Oui, bien sûr, j'y vais régulièrement. Tous les 2 ans, 3 ans. J'y emmène des jeunes également, j'y emmène ma famille. De toute façon, il n'y a plus grand-chose. Autant à Auschwitz, il y a encore des baraques, autant à Bergen-Belsen, il n'y a plus rien, puisque le typhus était tellement terrible que pour éradiquer la maladie, les Anglais ont dû tout brûler ou lance-flammes. Donc il n'y a rien. Mais c'est une étendue verte, très belle. Il y a toujours la forêt autour. Cette forêt qui me semblait tellement noire. Maintenant, je vois le soleil qui y passe. Mais il y a quelque chose quand même. C'est que tous ces morts dont je vous parlais, on a dit les regrouper dans des charniers puisqu'on ne savait plus quoi en faire. Et sur les charniers, on a mis de la terre. Ça a fait des monticules sur lesquels on a accroché des plaques. Ici, 5000 morts. Ici, 2000 morts. Ici, nombre de morts inconnus. Et là, je retrouve mon camp. Chaque fois que je vais à Bergen-Belsen, j'ai besoin d'aller voir ces monticules, de poser ma main sur la plaque et de dire « Salut les morts, je ne vous oublie pas ».
Deux fois, les yeux de Francine Christophe se sont embués, elle qui a tellement l'habitude de raconter son histoire. On vient de l'entendre là, à l'instant, et au tout début de ce podcast, quand elle parle des enfants du Veldiv, il y a beaucoup de choses qui passent dans les silences de ces deux femmes, dans le choix de leurs mots, dans leur regard aussi, intense, revivant l'horreur. Elle parle pour les morts, pour leurs morts.
Et toutes deux veulent continuer à témoigner jusqu'au bout, disent-elles, même si la période n'est pas favorable. On rappelle les titres de leur livre « L'enfant des camps » de Francine Christophe aux éditions Grasset et « Je suis née à Bergen-Belsen » d'Yvonne Salamon aux éditions Plomb. Une semaine dans leur vie, les deux enfants des camps. Merci Mathilde Dehimy.
Merci Bruno.
Une semaine dans leur vie est un podcast de la rédaction de France Inter.